Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Thierry Gacouin. Je travaille à l'École Polytechnique, un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique de la matière condensée, où j'anime un groupe de chimie du solide, qui travaille, comme vous allez le voir, dans le domaine de l'élaboration des matériaux, notamment pour des applications dans le domaine de l'optique. Je remercie le professeur Tarascon de me donner l'occasion de vous présenter les travaux de recherche qui sont faits dans ce groupe. Alors, j'appartiens à la communauté de la chimie du solide, comme Jean-Marie. Juste pour comme brève introduction, l'idée de cette discipline est de déterminer des relations structure-propriété dans les matériaux, notamment pour faire comprendre les relations qu'il y a entre la composition, la structure et des propriétés qui sont souvent des propriétés physiques, mais qui pourraient être également des propriétés chimiques ou mécaniques, voire d'interface avec la biologie. Associé à ces disciplines, il y a aussi la notion d'élaboration de matériaux, et notamment donc de mise en forme, notamment en vue d'application. Et donc, c'est des disciplines qui sont effectivement assez proches des applications. Donc, je donnais un exemple très basique ici de l'alumine, avec une structure Corindon, le rubis, l'insertion du chrome, la compréhension des effets de champ cristallin, et puis l'application, par exemple, pour faire des lasers. Donc, c'est évidemment un exemple extrêmement, extrêmement ancien. Alors, le point qui nous intéresse ici, c'est l'aspect structure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, bien évidemment, pour travailler sur la composition chimique des matériaux, leur structure cristalline, mais l'essentiel des travaux, beaucoup de travaux de la relativement moderne, je dirais, des 30 dernières années, visent à travailler sur les structures et des structures à diverses échelles. Alors, pour vous illustrer cet aspect-là, je prends un matériau comme l'alumine, là encore, que vous avez ici sous différentes formes. Dans tous les cas, c'est la même structure cristalline, c'est la même composition, évidemment, mais vous voyez que l'aspect de ces différents matériaux est complètement différent, et notamment quand on parle d'optique, évidemment, là, ça se voit directement. Alors, cet aspect-là est complètement différent, et donc quand on regarde avec des techniques de microscopie quelle est l'origine de cette différence-là, cette différence-là provient simplement de la différence de microstructure qu'il y a au sein de ces matériaux-là. Vous voyez ici un matériau très granulaire qui est à l'origine de la couleur blanche, très blanche, diffusante de ce matériau-là. Ici, vous avez un réseau de diffraction qui explique donc ces couleurs diffractées. Et puis ici, vous avez quelque chose qui est complètement homogène. Là, j'ai mis une image d'AFM d'une surface. Mais enfin, globalement, il faut retenir que c'est un monocristal qui est parfaitement homogène. Donc ça introduit la notion de microstructure à différentes échelles. Donc ça peut être des échelles nanométriques, micrométriques, voire plus grandes. Et ça va être un outil, un levier sur lequel le chimiste du solide va pouvoir travailler pour pouvoir optimiser des propriétés, pouvoir créer de nouvelles propriétés. Là-dessus, il y a à peu près une trentaine d'années, s'est développé des travaux dans le domaine des nanomatériaux, donc pour aller étudier ce qui se passe quand on regarde la matière à des échelles qui sont des échelles de quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres. Et là, ça apparaissent évidemment des propriétés qui sont là encore assez spécifiques de cette gamme nanométrique qui a donné lieu à l'essor que vous connaissez du domaine des nanomatériaux. Alors ici, vous avez des exemples, ça c'est trois systèmes, c'est du sulfure de cadmium, que vous avez sur trois échelles différentes. Les techniques d'ailleurs de microscopie qui permettent d'observer ça sont différentes. Ici, c'est des diffractions des rayons X, ça c'est la microscopie électronique en transmission, ça de la microscopie électronique à balayage. Ces techniques s'adaptent à la gamme de taille qu'on voit. À chaque fois, c'est le même matériau, c'est le même agencement des atomes au sein de ces matériaux-là. Néanmoins, ils vont avoir des propriétés qui sont assez différentes. Alors, il y a trois classes de propriétés qu'on peut distinguer quand on regarde les chaînes nanométriques. Il y en a une première qui est assez triviale, qui est que quand vous diminuez la taille d'un matériau, à un moment, vous allez voir des modifications de la diffusion de la lumière. Ces interactions, simplement, avec la lumière vont être très différentes. Et si vous allez à des gammes qui vont entre 5 et 30 nanomètres, si vous avez une dispersion de solution, cette dispersion-là va très peu diffuser la lumière. Évidemment, pour l'optique, ça peut être intéressant. L'autre catégorie de phénomènes qui interviennent quand on regarde des matériaux nanométriques, c'est les effets de taille. Ça, c'est des choses qui ont été émergées donc relativement récemment, mais qui font l'objet de beaucoup d'études. C'est des modifications profondes de propriétés physiques des matériaux, notamment de leur structure électronique, quand vous diminuez leur taille jusqu'à quelques nanomètres. D'accord ? Et donc ça, c'est des effets qui donnent lieu à des effets qui sont appelés des effets plasmoniques dans le cas des métaux. Donc ça donne cette coloration rouge de suspension de particules d'or, par exemple, des effets de superparamagnétisme, donc des ferrofluides, par exemple, et des effets de confinement quantique, comme c'est le cas dans le barreau de verre, ici, que je vous montre, qui est un échantillon qu'on a au labo, dans lequel, vous voyez que c'est un barreau de verre dans lequel vous avez des particules de sélénure de cadmium, et du côté gauche au côté droit, la seule chose qui change, c'est la taille des particules, et donc on voit de manière parfaitement visible que quand on change la taille dans, dans la gamme nanométrique, eh bien, vous avez des changements de structure électronique qui sont ici simplement des changements dans le gap du semi-conducteur. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les effets de surface, parce que quand vous diminuez la taille, bien évidemment, vous allez avoir une diminution du nombre d'atomes en volume par rapport au nombre d'atomes de surface. Et donc, évidemment, les atomes de surface vont avoir une influence prépondérante, de plus en plus importante, sur les propriétés physiques ou les propriétés physico-chimiques des particules quand vous diminuez la taille. Donc, les trois gammes les trois intérêts, l'intérêt de regarder la structure nanométrique, c'est d'une part la transparence, d'autre part l'émergence de nouvelles propriétés, et enfin, dernier point, c'est que ces particules, comme vous l'avez vu un petit peu dans la partie précédente, eh bien, on va pouvoir les utiliser comme briques de base, les assembler pour élaborer des matériaux. Alors ça, c'est donc un champ d'investigation riche auquel le chimiste va s'atteler. Et donc, pour ça, il faut mettre en œuvre des techniques d'élaboration qui vont être assez spécifiques. Donc, ces techniques d'élaboration, donc, ça vise à travailler sur la composition, la structure, à diverses échelles, micro-nanostructure, et puis ensuite faire la mise en forme et aller jusqu'au dispositif. C'est ça donc le rôle, le cheminement qu'on cherche à avoir dans le cadre de ce type de recherche. Alors, les techniques de chimie du solide classique, d'accord, que j'ai représentées ici de manière donc un peu assez brève, par la chimie du solide, je dirais, de l'ancien temps, mais qui reste toujours valable, c'est la chimie des hautes températures. Donc, on prend des précurseurs, on veut fabriquer un matériau inorganique, on va le chauffer, de manière à aller dans le diagramme de phase, dans la zone qu'on veut étudier. Et donc, on va obtenir différents matériaux. Mais il est bien évident que quand on veut travailler dans des matériaux de gamme nanométrique, quand on veut contrôler une microstructure dans cette gamme-là, eh bien, ce type d'approche est complètement impossible. D'accord ? Donc, d'une part, pour contrôler des micro- ou nanostructures, mais aussi pour pouvoir associer, comme on va le voir, des matériaux de structures très différentes, parce que quand on donne trop d'énergie, eh bien, les réactions ne vont pas pouvoir être suffisamment bien contrôlées. D'où l'émergence, et c'est donc la partie de ce cours qui est abordée cette année, des techniques dites de chimie douce, qui ont été émergées il y a aussi à peu près 30 ou 40 ans, dans lesquelles la France a une position assez leader, et donc qui reposent sur, non pas de partir de précurseurs solides, mais partir de précurseurs en solution, et de venir créer des assemblages de ces précurseurs, et de construire comme ça des édifices dont on pouvoir contrôler la structure, donc à diverses échelles, mais en partant des échelles qui sont des échelles angstrom, quelques nanomètres, jusqu'à des échelles beaucoup plus grandes. Donc un contrôle d'architecture contrôlée à diverses échelles, et donc nous, on va s'intéresser plus particulièrement à deux types de systèmes, d'une part des nanoparticules, et d'autre part des solides amorphes ou des solides poreux. Alors, je ne vous fais pas un cours, donc je vais juste vous montrer les outils dont on dispose, ce dont qu'on est capable de faire. Donc quelques exemples ici. D'une part, on est capable de faire des matériaux dits hybrides, dans lesquels on va condenser un réseau de silice, comme vous avez vu, et puis sur ce réseau de silice, on va pouvoir accrocher des espèces organiques. Alors ça, c'est un champ d'investigation très important, puisqu'on n'a pas d'un côté la chimie organique, de l'autre côté ou les polymères, et de l'autre côté les matériaux inorganiques. On vient associer donc des composantes, ces deux composantes-là. Et donc ça, évidemment, ça va donner des possibilités qui sont assez remarquables. Ensuite, c'est une chimie qui donne des facilités de mise en forme, c'est-à-dire qu'on va être capable de fabriquer des couches minces, on va être capable de fabriquer des empilements, donc on va être capable d'associer des matériaux de nature différente. Et enfin, on va pouvoir structurer ces matériaux, comme ici, pour faire des réseaux, ou à pouvoir faire de l'embossage. Et ça aussi, ça résulte du procédé de fabrication par chimie douce. Donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, le volet sol-gel de la technique. Et l'autre, c'est le volet nanoparticules. C'est une discipline qui a explosé depuis une vingtaine d'années. Il y a de plus en plus de matériaux qu'on est capable de fabriquer sous forme de nanoparticules. Donc les compositions accessibles sont de plus en plus larges, avec un contrôle, comme vous voyez ici, de particules de monodispersité qui est assez remarquable. On s'intéresse maintenant à des objets qui sont anisotropes, donc on va essayer d'utiliser, je vais vous donner des exemples, des objets, des assemblages d'objets qui sont anisotropes, notamment des nanobâtonnets. On peut former des hétérostructures, vous en avez vu quelques-unes, d'accord, dans lesquelles on va avoir un cœur, on va avoir une coquille, on va pouvoir comme ça assembler des matériaux. Et enfin, les aspects d'auto-organisation, d'assemblage, qui reflètent donc l'idée que je vous disais tout à l'heure, que ces objets, on va pouvoir les assembler les uns avec les autres pour réaliser maintenant le matériau. Alors, je vais vous parler un peu d'optique. Donc, on va travailler avec la lumière, on va regarder les interactions entre un matériau et de la lumière. Et en termes d'application, eh bien, je vous ai donné quelques exemples là, qui sont des exemples d'actualité, je dirais. Et dans tous ces exemples-là, eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que, au-delà du produit accessible au grand public, derrière, il y a des matériaux, il y a de la mise en œuvre de matériaux. Et donc, dans chacun de ces matériaux-là, bah, vous avez, dans chacun, mais dans ces différents matériaux-là, vous avez tantôt du silicium, de l'oxyde de titane, du nitrure de gallium, du YAG, donc un grenade d'aluminium, un oxyde d'indium de béétain, de l'or, des polymères, etc. Donc derrière, il y a tous ces matériaux-là. Et donc l'enjeu du chimiste, c'est d'optimiser ces matériaux-là par rapport aux applications qu'on veut cibler ou trouver des nouvelles applications. Alors, il y a différents types de couches. Souvent, ces matériaux-là sont mis en œuvre sous forme de couches minces. Et donc, il y a différents types de couches que j'ai regroupées dans deux catégories, des couches qui sont passives, dans lesquelles la lumière va passer, et puis la couche va simplement modifier, par exemple, son trajet, va jouer sur la polarisation, des couches qui sont passives, faire des antireflets ou autres. Et puis, il y a des couches actives, dans lesquelles va y avoir une réelle interaction entre la lumière et la matière, et donc ça peut être des interactions qui vont donner lieu à des réactions chimiques, des réactions redox, comme dans des réactions photocatalytiques, la lithographie ou autres. Il y a tout ce qui concerne le domaine de l'affichage ou de l'éclairage, dans lequel vous allez avoir de la lumière, souvent des ultraviolets, qui vont être absorbés par la matière et qui va réémettre sous forme de lumière visible. Et enfin, vous avez bien évidemment le cas des cellules solaires, par exemple, dans lequel vous avez interaction de lumière-matière et puis production d'une tension ou d'un courant. Alors l'enjeu de notre chimie, c'est de réussir à optimiser donc, les propriétés des couches. J'ai de la lumière qui arrive, j'ai une couche qui va avoir une certaine structure, et donc je veux optimiser ce qui va se passer au sein de cette couche. Donc j'ai trois choses sur lesquelles je peux travailler. La première, c'est les propriétés intrinsèques du matériau actif, le silicium qui va créer le photocourant, ou autre. Donc je vais travailler sur ces propriétés intrinsèques. Je ne m'occupe pas de sa microstructure, je regarde simplement sa composition et sa structure, et je vais l'optimiser par rapport à la propriété. L'autre chose, c'est que maintenant, je vais m'occuper de la microstructure et je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire comme optimisation de cette microstructure pour optimiser la propriété. Donc, je vais travailler sur la morphologie, la taille, la microstructure locale, les défauts qu'il y a, enfin, tout ce qui peut être intrinsèque au matériau massif. Et enfin, je veux travailler sur la microstructure globale de la couche, d'accord, parce que la lumière arrive et donc, en fonction de cette microstructure, eh bien, la lumière va pouvoir se propager de manière différente et donc je peux jouer sur cette microstructure-là pour optimiser le trajet optique de la lumière. Et donc, l'idée globale de la recherche, c'est d'avoir une optimisation de ces différents paramètres et notamment de ces deux paramètres-là de manière à obtenir des matériaux qui vont avoir donc, les performances les meilleures ou qui vont permettre d'obtenir des propriétés nouvelles. Alors, quand on parle de matériaux pour l'optique, par des voies de chimie douce, vous l'aurez compris sans doute par les exemples qui vous ont été donnés dans le cadre de ce cours, la silice, c'est un matériau de base, et ça tombe bien parce que la silice, les propriétés chimiques de la silice, quand on va la fabriquer en solution, sont absolument extraordinaires, et on a plein de leviers pour pouvoir contrôler la chimie de la silice, pour avoir des architectures variées. Alors, on part en général d'un alkoxyde de silicium qu'on vient hydrolyser, on va former un sol. Ce sol peut évoluer pour faire un gel, un monolithe à la fin. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse ici parce que, en termes d'application, le principal avantage de cette approche, c'est de faire des couches minces. La principale application, c'est de faire des couches minces. Et dans ce cas-là, je prélève mon sol et puis je le dépose, par exemple par spin coating, et je vais obtenir comme ça une couche mince. Alors, la silice en elle-même n'a pas d'intérêt particulier, mais comme je passe par un état liquide, je vais pouvoir mettre à l'intérieur des choses qui vont avoir des propriétés intéressantes. Ça peut être des molécules, ça peut être des photochromes, ça peut être des nanoparticules, ça peut être des catalyseurs, que sais-je. Puis il y a plein de choses qui peuvent être faites. D'accord ? Donc l'intérêt de cette chimie, c'est de pouvoir incorporer un certain nombre de choses. Alors, ça, c'est connu depuis assez longtemps. Je vais maintenant aborder donc des choses qu'on a faites au labo. Et là, il y a quelque chose qu'on a fait au labo il y a maintenant pas mal de temps. Ça consiste à incorporer au sein du sol de silice des tensioactifs dont le professeur Tarascon vous a montré que ces tensions actifs en solution vont pouvoir s'assembler. Il y a plein de structures assez remarquables qui peuvent se former par un mécanisme d'auto-organisation lié à la balance hydrophile-hydrophobe et à la manière dont le système peut diminuer son énergie quand vous avez à la fois une fraction hydrophile et hydrophobe. Donc quand je rajoute un tensioactif dans cette silice-là, enfin le tensioactif est correctement choisi, eh bien, je dépose ensuite ma couche mince, et là, le réseau de silice va se construire autour des assemblées micellaires qui se sont formées en solution, et à la fin, eh bien, je vais avoir emprisonné dans ma silice ces assemblées micellaires. Ensuite, je peux faire un traitement thermique de calcination qui va m'éliminer la composante organique, et je vais me retrouver avec une réplique de ces assemblées micellaires. Donc les assemblées micellaires auront joué le rôle de template qui vous a été présenté précédemment. Ici, vous avez une image de microscopie électronique où vous voyez donc ce réseau de trous. Donc, vous voyez un réseau poreux parfaitement bien contrôlé. Vous voyez que c'est un cristal de trous qui a été formé et donc qui vous montre la maîtrise qu'on peut avoir quand on fait cette recherche-là. Donc, ça, évidemment, je vous présente des choses qui correspondent quand même à un certain temps de mise au point, mais à la fin, voilà ce qu'on peut faire. Et donc avec ce réseau parfaitement périodique de silice. Alors l'objectif initial de ces couches, c'était de faire des couches bas indice de réfraction, parce que dans le domaine des matériaux, on peut faire des matériaux relativement haut indice, mais des matériaux bas indice, ce n'est pas très simple à faire, et finalement, quand on veut le faire, le mieux c'est de faire, faire un matériau poreux dans lequel on va avoir des trous. Après, si je regarde la structure de la silice telle que je peux l'imaginer, donc ça je n'ai pas été voir, mais c'est ce que différentes techniques d'analyse peuvent nous montrer, eh bien, j'ai une silice qui est parfaitement, qui n'est pas complètement condensée, donc on a une certaine microporosité, et puis on a le mésopore, les trous, là, les trous blancs, qui sont ici. L'inconvénient, c'est que la silice, c'est connu pour être une véritable pompe à humidité, et donc quand vous mettez un matériau comme ça dans l'atmosphère ambiante, eh bien, l'humidité vient s'absorber sur cette silice, et là où je voulais un bas indice de réfraction parce que j'avais une porosité, eh bien, si l'eau remplit cette porosité-là, bah, mon indice de réfraction ne va pas rester bas. Alors on a résolu le problème en utilisant un autre agent porogène, qui sont des billes de latex, que vous avez vu aussi tout à l'heure, et le principe là est simplissime, il s'agit simplement de mettre ces billes de latex dans le réseau de silice, et de faire la même chose. Je dépose, ma silice condense autour des billes de latex, je fais un traitement de calcination, et je récupère un réseau de trous, ici, donc qui n'est pas aussi beau que le précédent, parce que je n'ai pas d'organisation particulière, mais, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici, eh bien on a beaucoup moins de microporosité, la sensibilité à l'humidité est bien meilleure. On peut modifier la porosité à volonté, simplement en jouant sur la taille et la concentration volumique de billes de latex que je mets dans mon réseau de silice. Et comme ça, on récupère des couches stables d'indices, et on peut descendre l'indice jusqu'à 1,12. Évidemment, ça se fait, les propriétés mécaniques ne sont pas forcément très bonnes à ces indices-là, mais néanmoins, on a vraiment un matériau dans lequel on peut changer, comme on veut, l'indice de réfraction. Alors l'application qui est faites de ces composés-là, et ça c'est une application industrielle, réelle, il y a des produits qui sont vendus sur ce composé-là, c'est les panneaux solaires, parce que dans les panneaux solaires, il y a une protection, il y a une glace de protection en verre, et donc il y a une partie de la lumière qui est réfléchie sur cette glace, et donc qui est perdue, si on ne veut pas la perdre, il faut faire un traitement anti-reflet, et donc on va déposer ces couches sur le verre, et donc vous voyez, on dépose soit une couche d'indice convenablement choisi. Dans ce cas-là, vous avez une petite dépendance en longueur d'onde, mais ce n'est pas grave, vous pouvez aussi déposer une deuxième couche, et là, vous montrez très facilement que bah, vous pouvez optimiser les propriétés anti-reflets de ces systèmes. L'avantage, évidemment, de ce procédé-là, c'est qu'il est bas coût, c'est-à-dire qu'à mettre en œuvre, ça ne coûte absolument rien par rapport à d'autres techniques d'élaboration d'anti-reflets, par évaporation ou par multicouche. D'accord ? C'est vraiment bas coût, et c'est ce qui fait que ça a une application industrielle rentable. L'autre chose qu'on peut faire, quand on peut jouer sur l'indice des matériaux, et ça, le sol gel permet de le faire. Je dispose de couches qui sont bas indices, mes couches poreuses. Je peux faire des couches haut indices, parce que je fais du sol gel avec de l'oxyde de titane, et donc je peux faire des empilements haut indices, bas indices, et ça me permet de faire des miroirs de Bragg. Et le gros avantage de ce système-là, sol gel, c'est que comme j'ai une différence d'indice qui est extrêmement élevée entre les deux couches, je peux avoir des miroirs de Bragg avec des réflectivités qui sont extrêmement importantes pour un nombre de couches qui est finalement relativement limité. Donc ça marche très bien, on y arrive, les procédés pour le faire sont aussi relativement simples, et donc on obtient donc des fortes réflectivités pour un nombre de couches assez faible et un procédé d'élaboration qui est aussi très simple. Alors là, une application visée, celle-là n'est pas industrielle, mais c'était l'objectif de ces recherches, c'était de travailler sur les cellules solaires, là encore, mais l'idée c'était d'essayer d'optimiser l'absorption, parce que quand vous avez la lumière qui arrive, eh bien, toute la lumière n'est pas absorbée par le silicium, en l'occurrence, parce qu'il y a un moment, au niveau du gap du silicium, donc autour de 600-800 nanomètres, eh bien, l'absorption chute, et donc l'épaisseur de la couche ne permet pas d'absorber toute la lumière. Donc si on veut absorber le maximum de lumière, eh bien, on va simplement mettre un miroir ici anti-reflet, et puis de manière à ce qu'on arrive à avoir à injecter la lumière dans la couche. Donc ici, vous avez une image de microscopie, ça c'est le miroir de Bragg, ça c'est une électrode, ça c'est l'absorbeur silicium photovoltaïque, ça c'est l'autre électrode. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'augmenter la réflectivité, donc là, le trajet optique de la lumière dans la couche, de manière donc, à optimiser le rendement, notamment donc, dans la gamme où vous avez l'absorption du silicium qui diminue. Donc vous voyez, les pics qui apparaissent correspondent à cette augmentation de trajet optique. Donc c'est des pics parce que c'est un phénomène interférentiel, donc bon, évidemment, c'est que pour des longueurs d'onde relativement précise. Donc en faisant ça, on augmente donc 14,5% d'efficacité d'absorption dans cette zone-là, et donc en photovoltaïque, tout est bon à prendre, et donc ça correspond à une démarche, à des résultats qui peuvent être intéressants. Néanmoins, juste pour vous donner un exemple de travaux en cours, là, eh bien, l'idée c'était donc de passer d'une structure de cellules photovoltaïques qui est planaire vers une structure en nanophile. D'accord ? Donc ça, il y a des recherches qui sont faites, c'est une collaboration qu'on a avec nos collègues du laboratoire de physique des interfaces et des couches minces à l'École Polytechnique, dans lequel eh bien, on va, plutôt que de travailler sur des couches planes, travailler sur des nanophiles, et ça va nous présenter plusieurs avantages. Le premier, c'est un avantage optique, simplement parce que vous voyez que le trajet optique ici, la distance parcourue va être celle de la longueur du fil, et donc on va pouvoir avoir des distances qui sont plus importantes, et d'autre part, comme on a des nanophiles, on va faire des jonctions radiales, et donc l'efficacité de collection des porteurs va être considérablement accrue. Alors nous, on ne fait pas ça, parce que les nanophiles, ce n'est pas fait par des voies de chimie douce, c'est fait par des techniques qui sont des techniques de VLS à partir d'un catalyseur métallique, donc on a des catalyseurs qui sont des gouttelettes d'étain, on amène des précurseurs de silane, et donc ça fait croître les nanophiles. Donc ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Par contre, nous, chimistes des solutions, on travaille sur la répartition de ces catalyseurs parce qu'il faut être capable de... Il y a une densité optimale des nanophiles. Là, c'est une densité qui est très importante. Il y a une densité optimale. Tout ça a été calculé par des simulations optiques. Et donc, il s'agit maintenant de contrôler la densité de ces plots. Et donc, pour faire ça, on va fabriquer des nanoparticules d'oxyde d'étain qu'on va disperser en contrôlant leur densité sur la surface. Et ensuite, l'oxyde d'étain va être réduit en étain métallique, et donc la croissance va pouvoir se faire. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de recherche actuelle. Alors j'en étais au nanophile. Nous, je reviens à notre cœur de métier, qui sont les nanoparticules, et donc je vous présente ici des nanobâtonnets. Des nanobâtonnets qui sont des nanobâtonnets, je ne l'ai pas écrit, mais j'aurais dû, qui sont des nanobâtonnets de phosphate de lanthane, d'accord, qui sont faits par des voies colloïdales, assez simple, hein, on mélange des précurseurs, c'est un traitement hydrothermal, on obtient ces bâtonnets. Alors les bâtonnets par rapport aux objets sphériques, ils ont un intérêt particulier, parce que si c'est un bâtonnet, c'est parce qu'il y a une structure cristalline qui est anisotrope, qui va provoquer une croissance du cristal dans une direction privilégiée, mais ça veut dire aussi qu'on peut s'attendre à des propriétés physiques qui vont être anisotropes. D'accord ? Et ça peut être exploité, d'accord, d'avoir une propriété physique anisotrope, on peut essayer de l'exploiter pour certaines applications. Je vais vous en montrer quelques-unes. L'autre chose qui est très importante, c'est que quand vous avez des bâtonnets, eh bien, en solution, ces bâtonnets vont pouvoir s'organiser spontanément pour avoir une propriété de type cristal liquide. Alors ça, c'est ce qu'on voit ici, l'alignement des bâtonnets. D'accord, vous avez par exemple, simplement, ça c'est une manip toute simple, où vous avez un flacon dans lequel vous avez une suspension de bâtonnet, et vous regardez ce flacon entre polariseurs croisés, vous agitez simplement votre flacon, et sous l'effet des forces de cisaillement liées au mouvement du liquide, eh bien, les bâtonnets vont s'aligner dans la direction donc, où le liquide bouge, et donc vous avez comme ça des anisotropies optiques qui apparaissent, qui est directement conséquence de cet effet d'alignement. Ici, ce sont des images qui vous montrent ce qui se passe, toujours entre polariseurs croisés, quand vous augmenter la concentration en bâtonnets, des bâtonnets en solution et que spontanément, on va passer d'une phase qui est une phase isotrope vers une phase qui est nématique, c'est-à-dire une phase dans laquelle tous les bâtonnets ont tendance à s'organiser spontanément, d'accord, selon la même direction. Donc ça se comprend, je pense, relativement bien. Alors ça va nous servir à quoi ? Eh bien, si on a ça, on a des bâtonnets, on va se dire, je vais essayer de déposer des couches minces. Si j'arrive à organiser tous mes bâtonnets dans la même direction, eh bien, cette couche mince va présenter des propriétés optiques anisotropes, notamment de biréfringence. Alors, pour aligner mes bâtonnets tous dans la même direction, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer une goutte de ma suspension colloïdale de bâtonnets et avec un couteau, je vais aller étaler ma goutte, d'accord ? Et sous l'effet des forces de cisaillement, de même que dans le petit flacon tout à l'heure que je vous ai montré, eh bien, les bâtonnets, spontanément, vont s'orienter. Alors, les choses sont un peu plus compliquées que ça parce que une fois qu'on a orienté les bâtonnets donc sous le couteau, eh ben, il faut le temps que le solvant s'évapore, et là, en général, les bâtonnets vont se désorganiser, donc c'est un peu plus subtil que ça, et on va jouer sur les interactions interbâtonnets de manière à se placer juste dans un état gel, qui va être un gel thixotrope, de telle manière à ce que, une fois, sous l'effet des forces de cisaillement, eh bien, le gel va devenir liquide, c'est l'effet thixotrope, et dès que les forces de cisaillement sont annulées, ça va revenir en gel et ça va venir me figer la position des bâtonnets. Donc en faisant ça, eh bien, on obtient des couches, là vous avez une image de microscopie, donc après évaporation du solvant, des couches dans lesquelles tous les bâtonnets sont orientés selon la même direction, et c'est des couches qui présentent une biréfringence optique qui est extrêmement élevée. D'accord ? On a un delta N entre les deux directions qui est de 0,13, qui est extrêmement importante et qui s'explique très bien, d'une part, par une anisotropie, je dirais, géométrique, de remplissage de l'espace, du fait des bâtonnets, et d'autre part, parce que mes bâtonnets, ils sont formés d'un matériau qui est anisotrope lui aussi, et donc, s'il est anisotrope au niveau de la structure cristalline, il va aussi avoir une biréfringence optique qui va donc s'additionner à les biréfringences de ces choses-là. Donc ça, c'est des choses qui ont été brevetées pour des applications dans le domaine de l'optique. Alors ça, c'était les couches dont je dirais qu'elles sont passives. Maintenant, je vais vous parler de couches actives. Alors, ça va être des couches qui vont être sensibles à des excitations lumineuses, c'est-à-dire que je vais envoyer de la lumière et il va se passer quelque chose du fait de l'interaction de la lumière avec ces couches. Donc, je vais m'intéresser à deux propriétés. L'une, c'est la photocatalyse et l'autre, ça va être la luminescence. Alors, la photocatalyse, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le principe est relativement simple. Le matériau de base, c'est l'oxyde de titane, un semi-conducteur, grand gap, qui, quand il absorbe de la lumière ultraviolette, eh ben, on va générer une paire électron-trous. Ces électrons et ces trous vont venir sur la surface. Et puis, là, ça va réagir notamment avec des hydroxydes ou avec de l'eau. Et ça va former un certain nombre de radicaux. Et ces radicaux-là sont extrêmement réactifs et sont susceptibles de réagir avec des molécules organiques, de polluants, et donc pour aller jusqu'à comme une combustion. Donc la mise en œuvre de ces choses-là, vous voyez un exemple ici. Donc c'est sur du verre, c'est un exemple qui est pris chez Saint-Gobain, dans lequel vous avez donc le substrat de verre, et dessus a été déposé par CVD de l'oxyde de titane. D'accord ? Et donc ça, c'est les vitres auto-nettoyantes. Et l'aspect auto-nettoyant résulte de deux phénomènes, en fait. D'une part, de la dégradation des polluants organiques, comme je vous l'ai montré là, et d'autre part, il y a une hydrophilie qui est photo-induite, c'est-à-dire sous l'effet de la lumière, les changements de surface provoquent une hydrophilie qui induit un lessivage aussi par l'eau de pluie, de la pollution. Néanmoins, vous voyez que ici, les propriétés d'autant plus importantes que vous allez avoir une surface spécifique importante. Vous voyez qu'ici, vous avez une surface relativement rugueuse, d'accord, assez hétérogène, c'est exprès, mais on peut essayer de l'augmenter. Et donc, c'est là qu'on intervient, c'est-à-dire que comme nous, on sait faire des couches poreuses, l'idée toute simple, c'est de dire, je vais utiliser cette couche poreuse comme liant pour disperser des nanoparticules. De cette manière-là, je vais profiter de la petite taille des particules et je vais profiter aussi de la porosité qui va permettre donc aux polluants d'être absorbés par la couche de silice et de manière à être dégradés efficacement par les radicaux. Vous avez une image de microscopie électronique ici, de la couche. Vous voyez que l'organisation des pores est très perturbée par la présence des particules. Néanmoins, vous imaginez les particules qui sont très bien dispersées au sein de la matrice. Alors, je vais assez vite, néanmoins, ces couches-là eh bien, présentent des activités photocatalytiques qui sont de plus d'un ordre de grandeur supérieures aux activités photocatalytiques des couches précédentes, des couches industrielles de Saint-Gobain. Et donc, ça a des applications. Ça aussi, c'est des couches qui ont des applications industrielles, et c'est pour les luminaires de tunnels routiers, dans lesquels vous avez un système d'éclairage, et puis avec la pollution, eh bien, vous avez l'éclairage donc, devient de moins en moins efficace. Et donc, en mettant cette couche photocatalytique, qui est simplement excitée par les UV résiduels de l'éclairage lui-même, eh bien, ça permet comme ça de maintenir l'éclat donc, de cette transparence, de ces vitrages. Alors, je vous ai parlé de paires électron-trous qui sont photogénérées, qui vont induire la réaction de photocatalyse avec les radicaux. Ensuite, on s'est intéressé à un autre aspect du problème, qui est qu'à partir du moment où on crée des paires électron-trous, on va créer des électrons notamment. Et si je mets un sel métallique au voisinage de ces particules, je vais pouvoir les réduire, donc les photoréduire, d'accord, par la lumière. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant, qui est regardé dans une certaine communauté. Ici, vous avez des exemples, par exemple, de bâtonnets de semi-conducteurs dans lesquels on envoie des UV, il y a la paire électron-trou. Du fait que ce soit des bâtonnets, du fait de l'anisotropie cristalline de ces systèmes-là, en fait, l'électron et le trou, ils vont se propager et ils vont se retrouver au sommet du bâtonnet. Et c'est là que vous allez pouvoir photogénérer donc, ces particules métalliques. D'accord ? Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut créer plein d'architectures nanométriques qui sont des architectures qui sont appelées aussi hybrides, dans lesquelles on va combiner un matériau, un semi-conducteur, avec des métaux. Et il y a plein d'effets du domaine de la plasmonique qui peuvent être exploités dans ce domaine-là. Alors nous, on n'a pas fait tout à fait ça. On s'est dit, on a nos semi-conducteurs, on a les particules de semi-conducteurs dispersées dans une couche mince à base de silice. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener dans cette couche mince des ions argent, d'accord, de manière à pouvoir ensuite les photoréduire. Alors, la station des ions argent n'est pas quelque chose de complètement trivial, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc, on vient déposer sur la couche une solution d'acétate de sodium. Ensuite, on fait une calcination. Ça vient, les ions sodium diffusent au sein de la couche. Et ensuite, on fait un échange ionique, donc de manière à échanger les sodiums avec les ions argent. Donc, à la fin, on se retrouve avec une couche photocatalytique dans laquelle sont dispersés des ions argent. Et quand on envoie de la lumière sur cette couche-là, eh bien vous voyez ce qui se passe. Donc c'est sous une irradiation UV d'assez faible intensité, hein, donc c'est un procédé assez efficace. Eh bien vous voyez se développer une coloration qui est une coloration typique des particules d'argent. Et le gros intérêt de ce système-là, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec donc, des particules d'argent. Pardon, je ne vous ai pas commenté cette photo-là. Donc ça, les points noirs que vous voyez, c'est les particules d'argent qui ont été photogénérées. Et le gros intérêt, c'est qu'on est capable de contrôler parfaitement la quantité d'argent qu'on a au sein de la couche, puisqu'elle est déterminée simplement par la dose d'irradiation qu'on envoie. Donc on est capable de contrôler, pour une fraction volumique en argent, qui va typiquement de 0 jusqu'à 20%, et 20%, c'est assez considérable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un matériau quand on met de l'argent dedans, et on en met de plus en plus, des petits grains d'argent? Eh bien, on peut regarder les propriétés de transport. Donc ici, on met deux électrodes, et puis on regarde ce qui se passe entre ces deux électrodes, et vous suivez la résistance en fonction de la fraction volumique d'argent, c'est-à-dire de la dose d'irradiation en UV que vous envoyez sur votre échantillon. Donc au début, c'est très résistif, et puis tout d'un coup, eh bien, ça s'écroule, la résistance s'écroule, l'explication est extrêmement simple, c'est qu'au début, on a des particules d'argent qui sont photogénérées un peu partout, et puis il arrive un moment où on a ce qu'on appelle une transition de percolation, c'est-à-dire que vous allez former des amas et vous êtes capable de passer d'un côté de l'échantillon à l'autre par le biais des particules qui sont en contact les unes avec les autres. Donc forcément, on a une transition de type isolant métal. Alors ça, il y a plein de choses à faire, donc la physique à la percolation, c'est-à-dire comment les électrons passent d'un grain à l'autre, qu'est-ce qui se passe si j'écarte un petit peu les grains, si je mets un matériau magnétique, il y a plein de choses intéressantes à faire. Il y a une application qui est assez marrante, c'est de se dire, eh bien, je vais faire une couche mince, je vais m'arrêter exactement à la transition de percolation, et vous voyez que là, si j'applique une petite contrainte, comme une contrainte mécanique, par exemple, sur mon échantillon, eh bien, ça va correspondre à des variations de résistance qui sont extrêmement importantes. Donc j'ai fait un capteur, qui est appelé un capteur piézo-résistif, d'accord, qui est extrêmement sensible. Et ça, ça peut avoir plein d'applications. J'en ai noté une ici, par exemple, dans les éoliennes, pour pouvoir regarder les contraintes mécaniques et l'évolution. Donc sous l'effet du vent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez besoin d'avoir des capteurs sensibles. Et donc ça, ça pourrait être un matériau. Maintenant, je termine avec la dernière partie, qui est le cas de la luminescence. Alors là, j'envoie une excitation, je vais exciter des états, et puis je vais avoir une émission de lumière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là? Alors il y a plein de choses qui sont faites avec des nanoparticules. Je pense que vous avez vu des choses autour des oxydes de Peter rares. Donc nous, on travaille aussi dans ce domaine-là. Vous avez vu l'exposé de Valérie Busset, je crois, la semaine dernière. Et donc les oxydes de Peter rares, c'est des matériaux qui sont très intéressants quand on veut faire la luminescence parce qu'ils sont déjà connus pour leurs propriétés d'émission. Il y a plein de compositions qui ont été développées, qui sont utilisées industriellement. Il y a une longueur d'onde qui dépend de la terre rare. Ça dépend assez peu de la taille, contrairement à d'autres systèmes comme les nanoparticules de semi-conducteurs. Donc ça veut dire qu'en termes de synthèse, on est un peu moins contraint sur le contrôle de la taille de ces particules-là. On a des états excités qui sont localisés. Ça veut dire que même si on a une toute petite particule, eh bien, ils vont être assez peu sensibles à la surface et donc il va y avoir des rendements d'émission qui vont être relativement importants, même pour des petites tailles de particules. Et enfin, il y a des propriétés qui sont assez variées, de fluorescence, de phosphorescence, d'up-conversion. L'up-conversion, c'est que vous envoyez la lumière infrarouge, vous récupérez la lumière visible, vous faites une espèce d'addition de photons. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ces systèmes-là. Donc, on a développé des nanoparticules de ces composés-là. Je passe rapidement. Vous voyez, vous avez une suspension, elle est transparente, il n'y a pas d'absorption, le gap il est dans l'UV, c'est transparent parce que c'est des petites particules, et puis quand vous envoyez de la lumière UV, vous voyez cette émission-là, et puis vous voyez le changement d'émission en fonction de la nature de la Terre rare. Alors les applications qui sont envisagées pour ces systèmes-là, il y a celle-ci, je ne vais pas en parler beaucoup, mais globalement, on va utiliser ces particules-là comme sondes pour comprendre des phénomènes biologiques. Ici, par exemple, ça c'est des travaux qu'on a fait il y a quelques années, dans lesquels on vient accrocher une toxine, c'est la tétrodotoxine, c'est la toxine du poisson fougou, qui est connue pour venir bloquer les canaux sodiques dans les membranes cellulaires. Et donc, en accrochant cette toxine sur cette particule-là, la particule étant luminescente, je suis capable de visualiser l'emplacement de cette particule-là. Et donc, par exemple, si j'ai accroché cette toxine-là, eh bien, les petits spots que je vois là, les petits points lumineux d'une cellule cardiaque de grenouille, correspondent à l'emplacement des canaux sodiques. Et ça, ça permet ensuite de comprendre un certain nombre de phénomènes biologiques. Et puis ça, c'est d'autres systèmes, là encore d'imagerie. Là, c'est avec des particules de KTP qui font de la génération de seconde harmonique. Et c'est aussi donc, des systèmes dans lesquels ça va donner des outils pour l'imagerie biomédicale, et l'imagerie dans le domaine biomédical, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le diagnostic et la compréhension d'un certain nombre de phénomènes. Donc je ne vais pas parler beaucoup de ça, parce que je vais plus orienter mon exposé sur l'aspect couche mince, et donc quand on a des particules, eh bien, l'idée c'est on va les déposer en couche mince, et ça va nous permettre de faire des couches minces transparentes et luminescentes, et ça se fait relativement bien. Ça c'est un spray, hein, donc c'est comme un petit pistolet à peinture pour les maquettes, et on vient, donc on dépose notre suspension colloïdale et on vient déposer comme ça nos particules sur notre substrat. Vous voyez qu'on obtient donc des couches, d'accord, qui présentent des propriétés d'émission qui sont assez intéressantes. Alors ça c'est bien, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc on s'est intéressé à un problème un peu plus actuel, qui est le problème des LED. Donc que vous connaissez bien, je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc la LED, comme vous le savez peut-être, c'est un système qui va émettre de la lumière bleue, et il y a une partie de cette lumière bleue qui va être transformée en lumière jaune, d'accord, et le mélange du bleu et du jaune va donner la lumière blanche des LED que vous connaissez. Alors, les grains qui sont utilisés pour convertir le bleu en jaune, c'est des grains donc, d'un composé qui est un IAG dopé cerium, donc un aluminate, un grenat dopé avec du cérium, c'est des grains en poudre, et vous voyez ça marche très bien, hein. Néanmoins, vous voyez que quand la lumière arrive ici, les grains sont microniques, et donc il y a une partie de la lumière qui est diffusée un peu partout. Vous voyez, la lumière ici, vous avez de la lumière aussi qui est vers le bas. Si on veut améliorer le système, eh bien, il faut travailler sur le trajet de la lumière de manière à essayer de faire en sorte que la lumière ne sorte que dans une direction particulière. Comme ça, on n'aura pas de perte de lumière. Alors ça, ce n'est pas complètement trivial, d'accord, parce que ça veut dire que bah, plutôt que de subir la microstructure des grains microniques, d'accord, qui doivent servir que pour la conversion, eh bien, il faut travailler sur des nanoparticules de manière à pouvoir ensuite qu'elles ne diffusent pas et que le trajet optique doit, lui, contrôler que par une microstructure de la couche qu'on va imposer, notamment par le biais de l'impression d'un cristal photonique. Alors, on n'a pas travaillé directement sur des particules d'oxyde de Yag d'Opesarium, on en a fait, mais ce n'était pas complètement utile. Mais vous voyez que le problème, finalement, il est assez simple ici. On a déposé donc, un composé qui émet dans le rouge, et vous voyez qu'il y a une grande partie de la lumière, ici, qui est guidée dans le substrat. Donc, le problème simple qu'on s'est posé, c'est comment faire en sorte que le maximum de lumière soit émise perpendiculairement au plan du substrat. Donc ça se calcule très bien, et vous voyez qu'actuellement, si on ne fait rien, dans la configuration dans laquelle on est, on récupère 20%, donc 10 de chaque côté, parce que la majorité de la lumière, vous voyez ici, ça a saturé l'appareil photo, la majorité est guidée dans le substrat. Alors pour faire ce contrôle-là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir embosser, donc créer un cristal photonique, on va venir imprimer un cristal photonique de manière à ce que la lumière qui est guidée soit diffractée, et les caractéristiques du cristal photonique vont être choisies de manière à diffracter perpendiculairement au substrat. On peut faire mieux, c'est-à-dire que si on veut que la lumière soit sensible au cristal photonique, on peut confiner la lumière dans un guide, d'accord ? Et donc on va mettre l'émetteur, on va mettre une couche bas indice entre l'émetteur et puis le substrat, et ça va encore augmenter les capacités d'extraction de la lumière. Alors, la structuration des couches minces, comme je vous le disais au début, c'est aussi un avantage de la chimie qu'on met en œuvre. Et donc, vous avez, je vous montre deux techniques. La première, c'est la technique d'embossage, c'est la technique du moule à gaufre, où vous avez un tampon en PDMS qui a été fait par des techniques de lithographie classique et que vous venez emboutir, d'accord, la couche qu'il y a dessous par ce tampon. Et puis, quand vous le retirez, vous avez donc, l'image du motif qui était initialement sur le tampon. Donc ça marche très bien. Ça, c'est des choses qui se font relativement couramment dans le domaine. C'est une application qui est très utilisée maintenant dans le domaine de la chimie sol-gel. Une autre application que je vous mentionne très rapidement, parce que je vous ai parlé de matériaux hybrides, c'est d'utiliser, alors c'est un peu plus anecdotique, je dirais, mais c'est d'utiliser donc, des matériaux hybrides qui sont à base d'azobenzène. Donc c'est une couche sol-gel de silice dans laquelle ont été dispersées des molécules d'azobenzène. C'est ces molécules-là, là, celle-ci. D'accord ? Et ces couches minces ont la propriété assez exceptionnelle que quand vous envoyez de la lumière dessus, eh bien, la matière fuit la lumière, et donc vous allez quand même ça créer des motifs donc, directement en lien avec eh bien, l'irradiation lumineuse. Donc, vous pouvez faire comme ça une lithographie directe des couches, ça marche très très bien, et donc il y a pas mal d'applications aussi qui sont envisagées. Donc on a réalisé ces choses-là, ça a été fait pour un bossage. Ici, vous avez la couche émettrice qui vient donc confiner la lumière et donc qui est extraite donc par ce cristal photonique. Et donc, vous voyez ici la zone qui a été embossée. Et donc, on peut faire un certain nombre d'études d'optique et donc de compréhension, donc des configurations qui sont optimales pour l'application qui est visée. Donc, essayer d'avoir une lumière qui va être émise dans un cône, d'accord, qui est le plus restreint possible pour avoir accès à la directionnalité de l'émission dans les systèmes d'émetteurs. Voilà, donc je fais un bilan rapide de mon exposé qui arrive à son terme. Donc j'ai essayé de vous montrer des applications de la chimie dans le domaine de l'élaboration des matériaux, nanostructurés. Je dirais que c'est une chimie dans laquelle ce n'est pas tellement la réaction chimique en elle-même qui est importante, c'est la structure, les structures qu'on va obtenir. Donc on essaye de faire pour matériaux en optique, on essaye de faire une espèce d'ingénierie, je dirais, diélectrique des couches. Et puis, bon, j'espère vous avoir montré que c'était un formidable espace de créativité, comme je l'ai écrit ici. Et c'est assez souvent en lien avec des applications qui sont relativement concrètes. Voilà, il me reste à remercier mes collaborateurs, parce qu'évidemment, ces travaux-là se font évidemment au sein d'une équipe. Donc, le groupe de chimie du solide, et j'ai mis ici notamment les gens qui ont fait leur thèse, les étudiants qui ont fait leur thèse, dans le groupe, et puis un certain nombre de collaborations avec des physiciens, des opticiens, et puis on a pas mal de collaborations aussi avec des entreprises, notamment avec Saint-Gobain et avec Essilor. Et puis pour terminer, je vous remercie pour votre attention et puis je vous ai mis quelques photos pour que vous voyez que derrière toutes ces images, il y a aussi des manips. Et voilà. Merci pour votre attention.